Hebdo, Éric Bataillon.
Bonjour. De nouveau la panique cette semaine à Beyrouth. Une première fois mardi, puis une seconde jeudi, avec la vision d'une grosse fumée noire rappelant l'explosion du 4 août. À chaque fois, un incendie rapidement maîtrisé dans le port dévasté. Mais les Beyrouthins, et plus largement les Libanais, auront sans doute beaucoup de mal à sortir de ce traumatisme qui a provoqué colère et désespoir quand ils ne poussent pas simplement au départ. C'est ce qu'analyse notre invitée, la sociologue Carole André Desornes, spécialiste du Moyen-Orient et très bonne connaisseuse du Liban. Ensuite, nous lirons comme chaque samedi les journaux de la région avec Michel Paul à Jérusalem et Alexandre Bouchanti au Caire. Bonjour Carole André Desornes.
Bonjour Éric Bataillon.
Docteur en sociologie et consultante en géopolitique sur le Moyen-Orient. Vous intervenez également dans les hôpitaux psychiatriques auprès du personnel soignant, notamment sur la question des impacts de la géopolitique sur la santé mentale. Alors la situation au Liban, pays que vous connaissez bien, est-il un cas d'école en la matière ?
On pourrait dire oui, bien évidemment. Déjà avec la guerre civile, ces différentes occupations qu'a connues le Liban, israélienne, syrienne, et évidemment cette double explosion qui a eu lieu le 4 août, qui ravive des blessures qui n'ont pas forcément été cicatrisées et qui surtout maintient la population dans un état de stress assez intense.
Alors, cette explosion du 4 août a fait d'énormes dégâts matériels et humains. Le bilan, plus de 190 morts, des milliers de blessés. Mais ce traumatisme ressenti par les Beyrouthins ne va-t-il pas finalement bien au-delà de ce simple bilan comptable ?
Oui, très largement. C'est vrai que ce qui arrive en premier lors d'événements tels que celui-ci, ce sont effectivement les impacts matériels, le nombre de morts, le nombre de blessés. Mais ce qui est plus grave et surtout ce qui va être plutôt sur du long terme, ce sont les blessures psychologiques, émotionnelles, qui sont profondes, et ce sentiment d'insécurité aussi qui est quand même très largement ravivé. D'insécurité, mais aussi mélangé à de la colère, à du désarroi. Et là, justement, je me permettrai de faire un petit lien, parce qu'on parle toujours du peuple libanais comme un peuple résilient. Et je trouve qu'il faut faire attention avec ce terme de résilience. Il faut le prendre avec des pincettes parce qu'on a tendance un peu à le plaquer n'importe où. Et surtout, cette résilience est un peu une image d'Épinal de la guerre civile. Et la résilience, pour le cas du Liban, est-ce qu'on peut parler vraiment de résilience à partir du moment où on a un pays qui ne cesse de s'enfoncer dans l'insécurité économique, sociale, politique? Et donc, on a une population qui, à chaque fois, s'habitue au pire, mais le pire, enfin, là, on va un peu au fond du trou. Donc, une résilience, est-ce qu'on peut vraiment parler de résilience ? Moi, c'est un mot que je mettrais vraiment entre guillemets.
Mais est-ce que ce traumatisme touche les individus ou touche la société dans son ensemble ? Certainement les deux, peut-être.
Oui, les deux, complètement. Vous avez tout à fait raison. Les deux, d'abord, ce sont des histoires personnelles, individuelles, des traumatismes familiaux et également sociétaux. Parce qu'en fait, c'est tout un pays, même si c'est Beyrouth qui a été touché, impacté, c'est tout le pays qui est touché. Parce que c'est aussi révélateur d'une insécurité politique, d'une incurie politique et surtout révélateur d'une fracture qui est quand même très profonde. C'est la crise de trop là, c'est vraiment la crise de trop.
Alors justement, certains se mobilisent depuis le 4 août pour essayer de comprendre ce qui s'est passé, mais aussi pour essayer de mettre en place une reconstruction à venir. C'est le cas par exemple de l'architecte libanais Fadlallah Daguerre, qui a récemment lancé une plateforme citoyenne pour notamment recenser les dégâts et entamer la reconstruction. Lui dit qu'au-delà des habitations et des quartiers ravagés qu'il a pu voir après l'explosion, c'est toute la maison libanaise qui est dévastée. Est-ce que cela vous semble un bon diagnostic ?
Oui, complètement. Parce qu'effectivement, au-delà des dégâts matériels, c'est aussi la structure familiale, c'est la structure sociétale au sens large du terme qui est touché. Et c'est tout un pays qui est fragilisé encore plus. Alors, le Liban connaît une crise sociale, économique profonde, qu'il n'avait jamais connue auparavant depuis plus d'un an. Disons que c'était quelque chose de latent. Mais là, c'est vraiment tout un système et surtout c'est révélateur de failles qui existaient et qu'on a peut-être voulu ignorer aussi à l'international. On a, je pense aussi, fermé les yeux sur beaucoup de dysfonctionnements. Et ce sont plus que des dysfonctionnements d'ailleurs. C'est vraiment une, je vous dis, un vide total.
Alors, Carole André Desornes, l'explosion a touché, on le sait, principalement des quartiers chrétiens de la ville, de sorte que l'aide internationale arrive d'abord dans ces quartiers. Et cela suscite bien des rancœurs dans d'autres communautés également touchées, notamment la communauté chiite. Alors si on ajoute à cela les suspicions à l'endroit du Hezbollah, la fameuse cache d'armes sur le port, pour le moment introuvable, n'y a-t-il pas un risque de fracture dans la société libanaise et notamment dans le mouvement social qui est toujours en cours?
Alors, pour moi, ça, c'est pas vraiment l'objet d'une inquiétude. C'est-à-dire qu'il y a vraiment une entraide. La société civile libanaise est remarquable à ce niveau-là. C'est-à-dire, quelle que soit la confession. Ça a été, déjà, si vous voulez, révélateur au moment de la révolution citoyenne qui a démarré, bientôt, il y a un an, le 17 octobre, où, quelle que soit la confession, finalement, tous les gens étaient concernés par ces problèmes, ces inégalités, ce clientélisme, cette corruption si profonde. Je ne pense pas que, véritablement, ce soit annonciateur d'une crise supplémentaire entre les communautés. Là, je parle de la société civile. Politiquement, c'est autre chose. Sur le plan politique, c'est autre chose. Les Libanais que je côtoie, avec qui je suis en contact, très sincèrement, la question confessionnelle ne rentre pas là-dedans.
Néanmoins, si l'argent international ne vient pas irriguer aussi les quartiers qui ont été dévastés par l'explosion et qui ne sont pas chrétiens, là, il peut y avoir un problème.
Il peut. Alors, c'est vrai que c'est quand même principalement Jemaisé, Marmiraël, donc tous ces quartiers qui font partie d'Ashrafieh qui ont été touchés, où il y a aussi des musulmans qui y vivent, bien évidemment, ça faut pas l'oublier. Après, les autres quartiers, bon, ça c'est une autre question. Et le Hezbollah essaye aussi de jouer son rôle, justement, humanitaire, cette étiquette humanitaire. Mais à l'heure actuelle, sincèrement, c'est pas le problème fondamental. Moi, je ne ressens pas, en tout cas, avec ceux avec qui je suis en contact, de rancœur ou en tout cas de questions confessionnelles se mettre en avant.
Alors, vous disiez que cette explosion était peut-être l'explosion de trop, la catastrophe de trop. Est-ce que une autre explosion politique et sociale, celle-là, peut intervenir dans les semaines ou les mois qui viennent?
Alors, en fait, il y a plusieurs choses. Et là, je me permettrais également de faire un lien avec cette autre crise qui était la crise de trop, ces fameux incendies qui ont été un peu le déclencheur de cette révolution, puisque donc le Liban avait brûlé et les pompiers ne pouvaient pas utiliser le matériel qui était défectueux. Et la pluie avait joué un rôle dans l'arrêt de ces incendies. La crise politique, en fait, il y a eu donc un premier ministre qui a été nommé. Donc là, c'est vrai que on a vraiment l'impression que c'est le maître d'école qui arrivait dans la personne d'Emmanuel Macron et que voilà, les cancres de la classe voulaient à tout prix faire plaisir au maître. Donc on a nommé un premier ministre. Pour l'instant, il n'y a pas de cabinet. Je pense que les partis traditionnels jouent sur l'usure, la fatigue et le temps. Le temps est un atout pour eux. Il faut qu'il y ait, à mon sens, des pressions internationales qui soient maintenues, mais il faut également les pressions à l'intérieur du pays. C'est-à-dire que là aussi, cette crise, enfin, cette double explosion, c'est aussi quelque chose qui va épuiser, enfin qui épuise encore plus la population, qui n'en peut plus. Mais en même temps, on a vu, après les explosions, la colère, une haine à l'égard de cette classe politique, quelle que soit l'étiquette. Là aussi, il faut que la société civile, il faut que ces associations politiques, parce qu'il y a des associations politiques, et se sont regroupées notamment le 31 août autour d'un programme commun. Donc la société civile est présente, mais il faut qu'elle maintienne encore cette pression. Parce que s'il n'y a plus cette pression, si à l'extérieur on n'a pas cette pression non plus, malheureusement les choses ne risquent pas d'évoluer. Alors certains souhaitent justement que des élections aient lieu avant 2022, des élections législatives, mais ça servira à rien si le système électoral ne change pas, puisque ce seront toujours les mêmes. Donc la crise, oui, peut exploser. C'est-à-dire que le pays peut basculer, très sincèrement.
Donc le traumatisme peut se transformer en des revendications qui s'expriment dans la rue, mais ça peut aussi peut-être s'exprimer par des départs. Et l'hémorragie des départs est assez nette depuis quelques semaines.
Oui, quelques semaines, mais je dirais même ça a commencé, en fait, là aussi, ça s'est accéléré avec la révolution. C'est-à-dire que novembre, décembre, il y a eu une accélération des demandes de visa, une augmentation de demandes de visa pour quitter donc le Liban, alors venir en France. Mais plus de demandes pour aller au Canada, par exemple. Alors les États-Unis aujourd'hui c'est plus compliqué, mais c'est vrai que c'était plus pour le Canada. Donc il y a déjà une fuite, une augmentation de cette fuite qu'on ressent depuis la fin d'année 2019. Évidemment, ce qui vient de se passer est un accélérateur. Et moi-même dans mon entourage, j'ai des amis qui ont quitté Liban, alors avant l'explosion, au mois de juillet, pour ne plus y revenir du tout. Voilà. Et ça, malheureusement, ça risque également d'aggraver la situation au Liban.
Un Liban qui était censé fêter cette année son centenaire, le centenaire du Grand Liban. Et évidemment, cette manifestation passe complètement au second plan.
C'est un triste centenaire. Oui, vraiment. Oui, ça passe complètement au second plan. Alors même s'il y a eu effectivement la patrouille de France. Enfin, c'est plus l'essentiel aujourd'hui. C'est plus l'essentiel. Et puis finalement, un centenaire, quand on voit l'état dans lequel se trouve le Liban, qui n'a jamais été réellement indépendant. C'est-à-dire que même si le Liban a arraché son indépendance en 43, qui a été effective en 46. Malheureusement, cette indépendance et cette neutralité, comme la revendiquent beaucoup de Libanais, y compris le patriarche maronite, Monseigneur Rai, qui ne cesse de réclamer cette neutralité, elle est tombée dans les oubliettes, mais la fin des années 50, déjà. Déjà, où finalement, malgré la promesse qui a été faite dans le pacte national, à savoir que les musulmans ne demanderont jamais, en tout cas, protection des pays arabes ou les chrétiens ne demanderont pas de protection des occidentaux, au final, on se rend compte que c'est plus que jamais ça. Et que chaque communauté, peu de temps après l'indépendance, a cherché un parrainage extérieur. Et ça, c'est quand même, ça gangrène le pays aussi.
Malgré tout, y a-t-il des raisons d'être optimiste aujourd'hui pour le Liban ?
Il faut, parce que si on n'est plus optimiste, comme on dit, il faut s'accrocher. Les Libanais doivent s'accrocher, bien évidemment, parce que c'est plus facile à dire pour moi que quiconque d'autre. Mais c'est douloureux, comme je l'avais dit l'année dernière, c'est-à-dire que ces semaines qui ont été extraordinaires, parce que j'étais sur place, de révolution, vraiment, c'était un réveil incroyable, un réveil citoyen, comme il n'y en avait pas eu avant. Je dis, c'était l'étape la plus facile, hein. Le plus douloureux, c'est ce qui allait suivre. Et on est en plein dedans, malheureusement.
Merci Carole-André Desornes.
Merci Éric Bataillon.
On peut vous suivre sur votre site internet www.geopoldia.org. Allez, on prend connaissance de la presse de la semaine, la presse arabe lue au Caire avec vous, Alexandre Bouchanti, bonjour.
Oui, bonjour.
Et la presse israélienne lue à Jérusalem avec vous, Michel Paul, bonjour.
Bonjour.
Alors, on parlait du Liban précédemment avec notre invité, Carole-André Desornes, et vos journaux consacrent beaucoup d'articles à ce sujet, Alexandre.
Oui, et le sentiment général qui prévaut dans les éditoriaux de la presse, c'est celui de la compassion pour un Liban qui est passé de symbole de la joie de vivre dans les années 60 à celui de pays failli. De nombreux journalistes, sociologues et historiens s'intéressent à ce qui a pu provoquer cette descente aux enfers. Alors le système politique qui accorde le pouvoir en fonction du poids de chaque communauté religieuse est pointé du doigt. Pour commencer, le poids démographique des communautés a changé. La proportion de maronites et de chrétiens en général a nettement baissé à cause de l'émigration. Le poids économique et financier du Liban a aussi baissé du fait de la faillite de son système bancaire et de l'arrivée de nouveaux acteurs comme les Émirats, que certains surnomment les îles Caïmans du monde arabe. Et puis, il y a cette guerre civile entre maronites et sunnites qui a éreinté les deux communautés qui ont été supplantées par les chiites qui disposent aujourd'hui de milices plus puissantes que la petite armée libanaise. Et la conclusion de nombreux commentateurs est pessimiste. Ils doutent de la possibilité de réformer un pays qui était artificiel dès sa création par l'occupant français.
Et l'on parle encore et toujours du coronavirus. Alexandre, l'épidémie semble repartir dans le monde arabe.
En tous les cas, c'est ce que indique l'Organisation mondiale de la santé, qui indique que le nombre de cas avérés a dépassé les 2 millions dans le monde arabe. Alors, selon les journaux, des pays qui avaient réussi à juguler le virus, comme le Maroc, la Tunisie, la Jordanie et le Liban, voient le nombre de nouvelles contaminations nettement augmenter. C'est aussi le cas pour d'autres pays comme les Émirats, le Bahreïn, la Libye et la Palestine. Toutefois, d'autres pays comme l'Arabie Saoudite et l'Égypte s'accordent un satisfecit. Le nombre de nouveaux cas stagne ou baisse selon les jours. Des commentateurs rappellent que le monde arabe en général n'a pas été affecté comme l'Europe. non seulement les cas sont nettement inférieurs pour un nombre égal d'habitants, mais il y a eu entre 5 à 10 fois moins de morts dans les grands pays arabes et les grands pays européens, si on le rapporte au nombre d'habitants.
Coronavirus en Israël suite. Michel Paul, va-t-on vers un nouveau confinement dans le pays ?
On le voyait venir, mais c'est le scénario catastrophe, Eric. Le retour du confinement, titre Yediot Aharonot, sur le ton du retour du Jedi. Plus de 4000 nouveaux cas de Covid-19 par jour. Le cap des 1000 morts a été franchi il y a tout juste une semaine et les chiffres continuent de monter en flèche. Alors, confinement total dès jeudi ou vendredi prochain, c'est la veille de Rosh Hashanah, le nouvel an juif. Pas de grands repas familiaux, pas de départ en vacances, pas même de grandes prières dans les synagogues. On veut faire tomber le gouvernement, accuse le ministre Yaakov Litzman, un des leaders des partis ultra-orthodoxes. Un confinement superflu et mensonger, écrit un chroniqueur dans Haaretz, le journal d'opposition, et il ajoute cette petite phrase, « Tout cela pour Netanyahou ». Un gouvernement de poltrons, affirme un éditorialiste. Il faut se préparer déjà à la troisième vague, proclame une chroniqueuse prévoyante, mais aussi pessimiste. Alors le gouvernement israélien, affirme notre commentateur, est atteint d'un virus grave qui consiste à repousser les décisions. Et puis on peut résumer la situation en deux mots à l'aide d'un titre que l'on trouve dans le quotidien Maariv, fiasco national.
Alors, autre sujet, Michel, dans vos journaux, la situation politique, le débat monte d'un ton.
Et un mot revient dans la presse israélienne de ce week-end, vacances. Mais Eric, dans un sens bien particulier, celui de la vacance du poste de Premier ministre. En fait, c'est le résultat du bras de fer constitutionnel engagé entre Benjamin Netanyahou et le chef du parquet israélien Mandelblit, avec des répercussions tous azimuts. Netanyahou accuse cette semaine le parquet, aussi la police, de joindre leurs efforts pour le faire tomber. Le conseil juridique du gouvernement, qui fait office de procureur général, accuse lui le Premier ministre de mensonge dans ses attaques contre le système judiciaire. Haaretz, qui suit de très près toutes les nuances de ce duel, résume la situation en un jeu de mots en hébreu, sous la photo de Netanyahou, la traduction libre, « vacances ou retranchement ». Et dans Israel Hayom, le quotidien gratuit de droite, un sondage ce week-end, le Likoud, le parti du Premier ministre en perte de vitesse, mais la droite nationaliste dans l'ensemble gagne du terrain, un nouveau parti dirigé par le maire de Tel Aviv pourrait faire son apparition en grignotant sur l'électorat du centre-gauche.
Alexandre, la disparition des trophées de football remportés par l'Égypte occupe les pages des journaux Kairot depuis des jours.
Oui, et le scandale a éclaté quand des sources anonymes de la Fédération égyptienne de football ont révélé à la presse que la Coupe d'Afrique des Nations, définitivement gagnée par l'Égypte après une série de victoires à la CAN, a disparu. Après une valse hésitation de démenti puis de confirmation, la fédération a finalement avoué qu'elle ne savait pas où était la Coupe d'Afrique, mais aussi de très nombreux autres trophées. Les responsables actuels de la fédération, qui sont en charge par intérim, estiment que les coupes ont dû disparaître lors des désordres qui ont suivi la destitution du président frère musulman Mohamed Morsi en 2013. La fédération avait été attaquée et partiellement incendiée.
Michel, la presse en Israël se fait l'écho d'une série d'agressions sexuelles.
Ce sont des affaires qui suscitent beaucoup d'émotions en Israël. Eric, les journaux ont suivi tout au long de l'été le feuilleton dramatique du viol en réunion d'une adolescente de 16 ans dans un hôtel de la ville balnéaire d'Eilat. Depuis, il y a eu d'autres affaires et dans Maariv ce vendredi, un article d'opinion affirme que la société israélienne est devenue une pépinière qui encourage la culture du viol. Un journaliste du quotidien Haaretz, lui, est accusé d'agression sexuelle par plusieurs femmes, dont certaines étaient mineures au moment des faits. Roy Arad a présenté ses excuses et aussi sa démission.
Merci Michel, merci Alexandre. Orient Hebdo, une émission de RFI réalisée par Mathias Gulchani, que vous pouvez réécouter sur notre site www.rfi.fr ou en podcast sur notre appli Pure Radio. À demain, tout de suite, un nouveau journal.